bienvenue sur Campus Max, Radio Campus Po, 98.8 sur vos radios. Nous nous retrouvons ce mardi 12 mars avec moi-même Benoît pour faire un tour de l'actualité internationale et locale. Commençons par ce qu'il se passe dans le monde. Apple a commercialisé au début du mois de février le Vision Pro, son premier casque de réalité virtuelle, et Mark Zuckerberg n'est pas un grand fan. En effet, Mark Zuckerberg n'en finit plus de prendre la parole sur l'Apple Vision Pro. Plus d'un mois après la sortie du casque de réalité de la marque de la pomme, le grand patron de Meta a de nouveau remis en question son prix, assurant qu'il ne valait pas 3 500 $. Dans des échanges avec Benedict Evans, un membre du fonds d'investissement Mosaic Ventures, Zuckerberg a mis en lumière plusieurs limitations de l'Apple Vision Pro face au MetaQuest 3, le casque de réalité virtuelle développé par sa propre entreprise. Car, il est important de le rappeler, si Zuckerberg est si critique face au Vision Pro, c'est avant tout car son regard est biaisé. En effet, le patron de Meta produit lui-même avec son entreprise des casques de réalité virtuelle, les MetaQuest. La dernière génération est sortie il y a moins d'un an, pour 7 fois moins cher que l'Apple Vision Pro. Une différence de prix que Zuckerberg ne comprend pas. Il avait déjà, dans le courant du mois de février, publié une vidéo sur son compte Instagram pour donner son avis sur le casque d'Apple. Aujourd'hui, Zuckerberg assure qu'il a discuté avec de nombreux ingénieurs, notamment ceux de son entreprise qui ont travaillé sur le MetaQuest 3. Selon ses dires, les deux produits auraient énormément de points communs. Dans sa prise de parole, Zuckerberg a partagé ses inquiétudes sur le poids, l'autonomie, ainsi que les possibles écrans flous sur l'Apple Vision Pro. Le casque de réalité mixte proposant une reconstruction vidéo de la réalité, des mouvements trop vifs de la tête peuvent mettre les caméras en difficulté. Zuckerberg a fini par enfoncer le Vision Pro une dernière fois en expliquant que si Meta voulait produire des casques similaires dans les prochaines années, ce serait un bond en arrière dans le développement de leur technologie. Un avis qui ne partage sûrement pas Tim Cook, le PDG d'Apple. Dans cette lutte à distance entre deux des plus grandes entreprises du monde, Apple semble encore beaucoup avoir de retard. Selon les derniers rapports sur le sujet, la marque à la pomme aurait réussi à vendre 200 000 appareils aux États-Unis. Elle est bien loin du Quest 3 qui, lui, s'est vendu à 20 millions d'exemplaires au cours de l'année dernière. Apple pourrait bien rattraper une partie de son retard dans les prochains mois en lançant son appareil à l'international. Le marché chinois est notamment une grande source d'espoir pour les fêtes pensantes de Cupertino. Apple va néanmoins devoir résoudre quelques problèmes de production de masse pour arriver à concurrencer Meta sur le terrain de la réalité virtuelle. La semaine dernière, nous avions appris avec émotion le décès de la légende Akira Toriyama, le mangaka derrière Dragon Ball. Et cette fois, histoire d'ajouter une touche supplémentaire de tristesse, son dernier message. Vendredi dernier, nous avons appris la mort d'Akira Toriyama. Forcément, il n'en fallait pas plus pour apporter de l'émotion et de la tristesse dans le cœur des nombreux fans de Dragon Ball à travers le monde. L'homme laissant derrière lui une œuvre considérable et des personnages qui resteront à jamais gravés dans la mémoire. Entre-temps, des journalistes et reporters comme Supra Chronicles, spécialistes de son œuvre, ont pu nous apporter quelques émouvantes informations supplémentaires. En effet, Akira Toriyama a remporté le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière au festival de prix de l'anime de Tokyo 2024, annoncé le 14 décembre 2023. Bien qu'il était censé recevoir le prix sur scène lors du festival du 8 au 11 mars, ses commentaires sur la réception du prix ont été révélés par Supa Chronicle sur Twitter, et c'est particulièrement émouvant. Pour être honnête, je n'ai jamais eu beaucoup d'intérêt pour l'anime, et même lorsque mon travail a été adapté en format animé, je suis embarrassé d'admettre que je n'en ai pas beaucoup regardé. Mes excuses aux personnes. Il y a environ 10 ans, de manière tout à fait inattendue, on m'a demandé de réviser le scénario pour le film animé Dragon Ball, et j'ai réalisé quelques dessins simples pour les personnages et les décors. Je me suis dit, je peux laisser les parties difficiles à l'équipe, en riant. Ainsi, c'est vraiment embarrassant pour moi d'être le récipiendaire du prix d'honneur pour l'ensemble de ma carrière au festival des Awards de l'anime de Tokyo. Merci beaucoup. Ce qui est amusant, c'est que Akira Toriyama, célèbre créateur de Dragon Ball, était réputé pour son humilité malgré le succès phénoménal de ses œuvres. Il se montrait souvent réservé et modeste, s'éloignant de l'image que l'on pouvait attendre d'une célébrité de son calibre. Toriyama évitait généralement les feux des projecteurs et préférait que son travail parle pour lui. Dans ses rares interviews et écrits, il avait tendance à minimiser son rôle dans le succès de ses créations, attribuant souvent les mérites par son équipe et à d'autres facteurs plutôt qu'à son propre talent. Sa franchise concernant les défis rencontrés dans son travail et son admission de ses propres limites comme artiste et scénariste le rendaient particulièrement attachant aux yeux de ses fans. Cette humilité, associée à son génie créatif, a contribué à établir une connexion profonde et durable avec une base mondiale de fans. Le reste de son message est tout aussi touchant. L'un de mes souvenirs les plus inoubliables dans le monde de l'animation est lorsque j'ai rencontré le regretté animateur Toyo Ashida pour un projet d'anime appelé Kusuke-sama Rikusumaru-sama qui a été produit pour le Shonen Jump original. Ce projet n'avait pas de manga, donc une réunion a été organisée. C'était une personne aimable et nous avons rapidement créé des liens et à chaque fois que je voyais son style de dessin, j'étais ému par sa précision et sa rapidité. Je me suis dit, d'accord, je suppose que c'est ce genre de touche dont j'ai besoin pour accélérer le processus du dessin de rendre Dragon Ball beaucoup plus fluide. Le temps de dessin a été réduit à environ 2/3 de ce que nous étions auparavant. Nous sommes influencés mutuellement de plusieurs manières et je pense que c'était une période vraiment enrichissante. Je prie pour le repos de l'âme d'Ashida-san. Encore une fois, on peut admirer à quel point l'homme, en plus d'être humble, se montre admiratif du travail des autres et n'hésite pas à expliquer que cela fut une source d'inspiration et même une aide pour son propre travail. Dragon Ball Daima, qui sera lancé en 2024, était à l'origine prévu pour être une série animée originale sans moi. Mais comme j'ai donné des conseils ici et là, je me suis retrouvé profondément impliqué dans le projet sans m'en rendre compte. Je n'ai pas seulement participé à l'intrigue générale, mais aussi au monde, au design des personnages, au mecha et à d'autres aspects. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder la série qui, je crois, est non seulement intense et riche en action, mais aussi pleine de substance. Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Je ne suis pas sûr de pouvoir encore faire beaucoup car je ne suis pas très confiant en ce qui concerne ma santé, probablement à cause de mon mode de vie lorsque j'étais plus jeune, mais je ferai de mon mieux pour créer d'autres œuvres intéressantes, alors s'il vous plaît, continuez en mon souvenir, un ultime message touchant qui devrait bouleverser encore plus les fans de Dragon Ball, repose en paix, Akira Toriyama. Voici à présent ce qu'il se passe en France. Une nouvelle idée inattendue de Jason Chicandier, l'humoriste de 45 ans qui s'est fait connaître du grand public sur la toile avec notamment son programme L'Addiction s'il vous plaît, d'où il venait interviewer en prenant l'apéritif des personnalités comme François-Xavier Demaison, Bruno Solo ou encore Clara Morgan entre autres, organisera le 17 mars prochain la plus grande raclette jamais proposée au monde. Un rendez-vous que Laurent Réagage, de son vrai nom, compte faire enregistrer au Guinness Book en battant le précédent record qui avait réuni 1067 personnes autour de ce plat convivial. La convivialité sera d'ailleurs le maître mot de cet événement atypique qui rassemblera 2000 personnes autour de producteurs locaux au parc des expositions de Saint-Étienne, ville d'origine de Jason Chicandier. Plusieurs grands chefs, à l'instar de César Troisgros, Xavier Pincemain, Lionel Levy ou encore Charles Fonte feront le déplacement. Avant même d'être lancé, cette raclette géante fait déjà un carton plein puisque le rendez-vous affiche complet. Les quelques 1700 places proposées à l'origine sont vendues comme des petits pains et en peine 5 jours. Encore plus fort, il n'aura fallu qu'une minute 15 pour que les 300 billets ajoutés partent à leur tour. Toujours du côté des chiffres fous, une tonne de pommes de terre, pas moins de 600 kilos de fromage et 330 de charcuterie ont été prévus à l'occasion de ce rendez-vous XXL, dont une partie des fonds sera reversée à l'association DNA qui œuvre à la promotion des places des personnes en situation de handicap dans la société civile. Ce dimanche, Dimitri Bourdon, boulanger de 29 ans, a remporté la Coupe du Monde de la chocolatine et du pain au chocolat, organisée près de Toulouse, face à une vingtaine de concurrents de 12 pays différents. Ce boulanger français, Dimitri Bourdon, a remporté ce dimanche la Coupe du Monde de la chocolatine et du pain au chocolat, organisée près de Toulouse, face à une vingtaine de concurrents de 12 pays différents. Le Gersois de 29 ans, qui officie dans une boulangerie de Cugnot, une banlieue de Toulouse, a été choisi par un jury de 19 professionnels au milieu de la restauration. C'est un énorme honneur, a confié Dimitri à l'AFP après avoir reçu sa récompense. Surtout quand on voit les candidats, les produits qui sont sortis, le jury, ça fait peur. Il s'est imposé de peu devant son compatriote Tom Jean, arrivé deuxième, en proposant notamment, en guise de viennoiserie revisitée, un pain au chocolat au poivre de Sichuan en forme de moulin, agrémenté d'une gelée de mariande, orange amère et jus de yuzu. L'italien Mirko Zenati complète le podium et s'arroge le prime, le prix spécial, un deuxième jury, cette fois composé de particuliers. Retrouvez Dimitri Bourdon d'ailleurs à la boulangerie d'après nous, au 113 route de Toulouse à Cugnot, 20 candidats de 12 pays différents dont l'Arabie Saoudite, le Cameroun, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Koweït, le Liban, le Maroc, la Tunisie et le Vietnam s'affrontaient dans cette deuxième édition de l'épreuve. La France comptait 4 représentants, tout comme le Maroc et le Cameroun avaient aligné deux candidats. Sous l'œil de plus d'une centaine de curieux, les 20 compétiteurs ont dû confectionner 24 de ces viennoiseries, dont 12 classiques et d'autres revisitées. Toutes d'un point précis et à l'aide des mêmes ingrédients, ils ont été évalués selon les critères de cuisson, de régularité, de qualité du feuilleté, de goût et de la texture. Impossible de choisir, les organisateurs n'ont pas voulu trancher. Le concours porte les deux noms de Coupe du Monde de la chocolatine pain au chocolat. Si on remonte quelques années en arrière, France Bleu Gironde partageait ce sondage selon lequel les Français plébiscitaient à 84% les pains au chocolat. Si on zoome sur le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, on va à la boulangerie acheter une chocolatine à 63%. L'Occitanie, de son côté, a bien du mal à trancher. 53% des Occitans votent pour le pain au chocolat, 47% pour la chocolatine. C'est la fin de ce Campus Mag, j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez écouter le podcast ainsi que les présents sur radiocampuspo.fr et vous pouvez aller sur Instagram pour suivre Campus Mag et Radio Campus Po. On vous y attend nombreux et nombreuses. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.